1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On a un intro dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. À toi, je passe à la mentalité.
C'est cool, ça va arriver, les voisins.
Bonjour, hello, willkommen, buenos dias. Vous écoutez bien le Décadré sur PFM 99.9 Radio Libre. Bonjour Antoine.
Shalom.
Bonjour Ange.
Malechem.
Exact.
Comme vous voyez. On fait un pyramide là, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Kaboulox. Alors, nous sommes.
Rabbi Jacob. Oui, parce que le 2 va bientôt sortir.
Rabbi Jacqueline. Alors, nous sommes en pleine forme, nous sommes vivifiés, nous sommes présents.
Oui.
Et
je pensais que t'allais dire nous sommes décadrés. Parce que ça aurait rimé.
C'est pas faux. Et du coup, aujourd'hui, ça va être une émission un peu particulière parce qu'il va y avoir un genre de préparation pour les fêtes de Noël parce que ça nous fait vachement marrer. Et
puis ça nous fait plaisir surtout.
Et hein, aussi, ça nous fait plaisir, faut le dire aussi.
Attention à tes mots.
Oui. Et Antoine, là, une petite info à vous dire.
Oui, voilà. Alors, on fait pas. D'habitude, quand on fait des petites infos, des petits points presse, on va dire. On il m'a mis la musique des news de Ben, merci Ange. D'habitude, c'est sur Popcorn Reborn, et là, c'est pour vous informer d'un autre événement. Mardi aura lieu le premier concert, enfin, pas le premier concert, mais un concert de l'association La Saucisse, qui est une association étudiante de l'Université d'Arras. Et nous vous y invitons parce que nous serons présents. Alors, c'est ouverture du bar à 20h, il ferme à 23h, grand max minuit. Surtout, il faut préciser qu'il est important de ramener des denrées non périssables et ou des jouets. C'est important parce que c'est pour un projet de Noël caritatif. Et sinon, bah, l'entrée est gratuite et les consos seront fixés au bar. Voilà, tout simplement.
Bon, bah, je sens qu'on va aller braquer la grande récré.
Exactement.
Et bon, bah, je pense que du coup, je vais enchaîner avec les news de Ben.
Tant que la musique est là, vas-y, enchaîne. Hein.
Alors,
je vais devoir la relancer au bout d'un moment.
Vous connaissez The Green Hornet?
Oui.
Oui. Une série des années 60?
Oui.
Oui. Avec Kato, qui était incarné par Bruce Lee.
Oui, et d'ailleurs, c'était un mec pas très catholique, à ce qu'il paraît.
Oh, purée. Et donc, The Green Hornet suivait un journaliste qui s'appelait Reed, Peyton Reed, je sais plus comment
c'est. Oui, c'est...
il me semble que c'est Peyton Reed.
Et non, je crois que c'était juste Reed. Je sais plus comment c'est.
Mais ouais. Je ne sais pas.
Et en clair, de jour, était journaliste. De nuit, c'était le Green Hornet, un super-héros humain.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc on va. Vous savez qu'il y a eu un film par Michel Gondry.
Oui, c'est avec Seth Rogen justement.
Ouais. Et je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur asiatique qui joue dans un rôle des Kumar. Voilà, John Cho.
Et bien, autre nouvelle, The Green Hornet va être rebooté.
Wow.
Ouais. Et ça va être un film beaucoup plus sombre et qui ça va être rebooté par Gavin O'Connor qui a fait Warrior, qui a fait Monsieur Wolf.
Mais du coup, ils vont reprendre l'histoire du journaliste ou du milliardaire. Parce que dans le film de Michel Gondry, c'est pas un milliardaire
C'est un fils d'un grand rédacteur en chef.
Oui. Ouais, donc il est pas journaliste.
Non, il était pas encore.
Non. Voilà, il était pas encore journaliste.
C'est un peu un loser dans le film de Michel Gondry.
Et Gavin O'Connor a fait une déclaration. J'ai toujours voulu faire ce film depuis que j'ai voulu m'attaquer à la réalisation. Quand j'étais enfant, alors que la plupart de mes amis adoraient Superman et Batman, il n'y avait qu'un seul héros qui retenait mon intérêt, Green Hornet. C'est le plus badass car il n'a pas de super pouvoir et il est un super héros avec tout ce qu'il y a de plus humain. On peut remettre un peu en cause sa déclaration, qui vend bien en tout cas son projet. Ensuite, cette semaine, on a eu le trailer de Spider-Man Homecoming.
Oui.
Donc, film de John Watts, donc qui a un reboot.
Oui.
Donc, en clair, il y a eu un nouveau Spider-Man qui est incarné par Tom Holland, présenté dans Civil War, parce que Sony a décidé de s'allier et de rendre Spider-Man à Marvel.
Ouais, de lâcher la grappe à Spider-Man.
Parce qu'ils ont remarqué que The Amazing ça marchait pas.
Ah, sérieusement?
Ouais. C'est vraiment des génies chez Sony.
Je ne l'avais pas remarqué que ça marchait pas.
Au bout de deux films.
Ouais, au bout de deux films quand même. Au bout de quelques milliers d'euros, enfin de dollars dépensés.
Voilà. Milliers
Enfin millions.
Millions plutôt.
Et donc le film s'annonce assez coloré, fun et pop. Et le méchant sera le vautour. Et moi j'ai vu ça comme un énorme doigt d'honneur à Sony. Puisque le méchant de Spider-Man 4 de Sam Raimi avant qu'il les ait Amazing, bah c'était le vautour.
Ça devait être le vautour, ouais.
Enfin là, il y a le vautour et le Shocker aussi.
Apparemment.
Qu'on voit dans la bande-annonce, c'est le Shocker aussi.
Ouais.
Je pense qu'ils sont copains.
D'ailleurs, ça me surprend parce que c'est vrai que le Shocker, il est présenté énormément dans les jeux vidéo comme ennemi important, récurrent, mais
on le voit jamais dans les films.
On le voit jamais dans les films.
En même temps, ils ont mis le bouffon vert, quoi.
Ah, c'est vrai que.
Bon. Et là, du coup, on va avoir droit à Michael Keaton. Oui. Qui va incarner le vautour, ce qui est rigolo, ce qui va incarner Birdman.
Ouais. Mais c'est pour ça que c'était très drôle aussi, parce qu'il y a un fan qui avait fait une bande-annonce avant que la bande-annonce sorte, Birdman, avec des images de Bird, avec des images de Birdman, avec des images de Captain America Civil War, et en fait ça faisait une bonne bande-annonce au final.
Donc on verra ce que ça donne, mais j'ai plutôt confiance.
Moi j'ai hâte, moi.
En plus, ils lui ont rajouté l'étoile d'araignée en dessous de ses bras.
Ah, cool.
Oui, ça c'était cool.
Mais du coup, vu qu'il y a aussi cette avancée d'Iron Man qui est présent dans le film.
Ça fait un peu peur.
Peut-être pas, mais peut-être qu'ils vont intégrer d'autres costumes de Spider-Man, vu qu'il en a beaucoup et qu'il en a une spéciale Iron Man. Spider-Man dans le vent.
Moi j'avais juste peur que ce soit un Iron Man 4 en fait.
Oui, c'est... Ouais. Mais à mon avis, je pense que Tony Stark aura un rôle de papa, on va dire. Ouais. Mais ce sera pas plus que ça, je pense.
On a eu ensuite un autre trailer d'un film que franchement j'attends énormément, Alerte à Malibu.
Oui, j'ai vu.
Avec Dwayne Johnson, Zac Efron et Alessandra Daddario. Je crois que c'est ça.
Mais ça s'appelle Baywatch, c'est ça?
Bah, en fait, Baywatch, c'était déjà le nom de la série, le nom original, et c'était Alerte à Malibu.
Moi, franchement, j'en attends rien du tout.
Ah, bah écoute, le trailer a révélé une adaptation complètement délirante et humoristique de la série qui était kitsch. Bah, alors, kitsch à souhait.
Ouais, mais elle se prenait vachement au sérieux, la série, quand même.
Hein. Ouais, il y avait beaucoup de ralentis.
Kitsch, mais
un peu comme le feu de l'amour, quoi.
Ouais, bah, d'ailleurs, dans la bande-annonce, ils se moquent des ralentis parce que t'as celle qui remplace Pamela Anderson qui court, et puis t'as une femme qui dit, mais. Elle court au ralenti. Et t'as un mec qui dit « Ah, toi aussi, tu le vois !» Et donc, ça devrait donc suivre les sauveteurs de Malibu qui vont contrer un réseau criminel visant à détruire la baie.
Quoi ?
Ça, c'est ça qui est génial. Le film est réalisé par le réalisateur de « Comment tuer son boss ».
Ah, ça relance un peu mon intérêt pour le film.
Et Dwayne Johnson a l'air complètement cinglé, Zac Efron aussi.
Ouais, Zac Efron, il a l'air de jouer un petit con.
Dedans. Et non, mais il y a une séquence en poursuite en scooter où Zac Efron conduit, Dwayne Johnson est derrière, mais ils avancent tellement pas que Dwayne Johnson pousse avec ses pieds. C'est assez génial.
Et ils sont ridicules parce que c'est un scooter rose.
En plus.
Et ils sont habillés en rose, je crois.
Bon, je vais retenir ma langue et je vais peut-être attendre de voir ça.
Mais
ça a plus l'air d'être un film totalement délirant plutôt qu'un film sérieux qui se prend vraiment au sérieux.
Ouais, c'est ça. Et donc j'ai confiance. Et donc c'est la fin des news.
Oh! Mais du coup, pour se faire plaisir, on va se lancer une petite musique quand même.
Alors, une petite musique de Noël.
Mais oui.
Par Wham. C'était Last Christmas de
Wham.
Je laisse un peu en fond pour s'amuser un peu quand même. Vas-y.
Continue. Ah oui.
Et donc nous allons enchaîner sur une chronique d'Antoine sur un film de Curtis Hanson qui s'appelle Elle est confidentielle.
Eh oui, Elle est confidentielle. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de Elle est confidentielle à votre avis?
Parce que
t'as envie d'aller à LA.
Alors oui, ça c'est un fait notable. J'adore cet acteur. C'est mon acteur préféré. Mais c'est vrai qu'en réalité, en fait, j'ai pas énormément de bonnes raisons d'avoir choisi LA Confidential, à part la découverte de ce film il y a peu de temps. Oui, il y a Russell Crowe aussi. Mais en fait, c'est un film que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et aussi parce que je me suis rendu compte que ça va faire bientôt 20 ans depuis la sortie du film. À l'époque, je n'avais que 3 ans et j'ignorais l'existence même de ce film qui est pourtant magnifique. Bon, en même temps, faut pas se mentir, quand on a 3 ans, niveau souvenir, on n'est pas bien loin. Mais en y pensant, moi je trouve que c'est toujours amusant de redécouvrir des films des années qui m'ont vu grandir, mon époque de naissance. Alors, il y a aussi une autre raison en fait, parce que j'ai découvert ça en faisant mes recherches, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à Curtis Hanson qui nous a quitté le 20 septembre 2016 à l'âge de 71 ans.
Oh, c'est exact.
Voilà, donc du coup, c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage. Alors, on lui doit notamment Wonder Boys, 8 Mile aussi. Les gens ont tendance à oublier qu'il a réalisé 8 Mile,
qui
est un très beau film. Et aussi La main sur le berceau, que je ne savais même pas que c'était de lui. Et voilà. Mais après, voilà, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que LA Confidential aussi, c'est un film qui est adaptation d'un roman de James Ellroy, mais c'est aussi un film qui a été oscarisé, et pas des moindres. On a l'Oscar pour la meilleure actrice, dans un second rôle pour Kim Basinger, et aussi celui du meilleur scénario adapté d'un roman. C'est quand même pas rien. Et là, chers auditeurs décadrés, tu vas te dire... Non, mais t'es bien sympa de me vendre un film comme ça, Antoine, mais en fait, ça parle de quoi précisément ?
Moi, je pense que ça parle de quelque chose qui est très confidentiel.
Non, c'est l'attendais.
C'est une enquête.
Et là, moi, oui, c'est très confidentiel, mais là, de ce fait, je vais te dire, chez les auditeurs, d'attendre patiemment. J'arrive, j'y viens. Alors, elle est la cité des anges, 1950, ville magnifique mais corrompue. Suite à l'arrestation du Kane Mickey Cohen, plusieurs vagues de règlements de compte viennent entacher les rues de LA. Mais une affaire va mobiliser l'ensemble des forces de police, celle de l'oiseau de nuit. Un massacre auquel un flic va y laisser la peau, en fait, et pas n'importe quel flic, parce qu'il va s'agir du collègue, entre guillemets, de Russell Crowe dans le film. Et c'est pas étonnant que le LAPD s'en mêle, parce qu'en fait, cette histoire est beaucoup plus sombre et engage encore plus les forces de police qu'il n'y paraît. Et oui, mais je n'en dirai pas plus. Alors, ça va nous donner l'occasion de découvrir 3 personnages très différents les uns des autres, mais très bien marqués aussi par leurs différences. On a donc des méthodes complètement différentes. On a Kevin Spacey, on a Russell Crowe, on a Guy Pearce. Alors, Guy Pearce qui est dans un rôle de carriériste un peu futé, qui est prêt à tout pour réussir, tout en respectant les lois. On a Kevin Spacey qui est un mec qui est un peu mondain, un peu désimbusé, qui est dans le milieu du spectacle et qui travaille sur une série qui s'appelle La Justice à tout prix. Je ne sais plus le nom exact. Et enfin, on a Russell Crowe qui fait partie des rôles les plus forts du film, puisque c'est vraiment l'archétype même de l'anti-héros bon samaritain qui est meurtri par des événements passés et qui a une vision de la justice assez particulière, même à la limite, enfin, même carrément une justice violente, quoi. C'est un messager qui vient te punir. C'est un peu un punisher, en fait, Russell Crowe dans le film. Bon, voilà, donc ça c'est un peu pour le speech, et ce qui est intéressant de constater, c'est que en fait le scénario va faire en sorte que ces 3 inspecteurs vont se rencontrer au fur et à mesure de l'enquête pour dénouer un sacré sac de nœuds qui concerne la police de Los Angeles. Alors, ce qui est quand même fort avec le film, c'est qu'en fait il nous replonge dans l'ambiance des années 50, il y a la réalité sociale des époques d'après-guerre, on sort de la guerre, il y a les nouvelles émancipations, la liberté, l'ambiance du film est très colorée au final, alors qu'on est justement sur quelque chose de très très noir, très tendu en termes d'action. On sent une tension qui est palpable à l'écran dès l'ouverture générique qui se fait sur justement Danny DeVito, qui joue un personnage aussi dans le film d'un espèce de journaliste un peu people en fait pour l'époque. Et il y a une tension sociale qui est bien présente, et ça retranscrit aussi la tension sociale d'après-guerre, parce qu'il y a une référence, tout ça en plus. On parle de la guerre, de l'après-guerre justement, de tous ces meurtres, de tous ces morts, pardon, et du trauma que ça a engendré aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant aussi justement, c'est que cette couleur dont je parlais, qui vient un peu effacer l'ambiance en tension du film, elle est contrastée par les strass et les paillettes d'Hollywood ainsi que les projecteurs qui viennent vraiment nous aveugler la tronche. Et le personnage de Kevin Spacey, c'est aussi l'exemple même de cette partie-là, parce qu'il est en plein, il est en plein dans le milieu du spectacle. Alors cependant, bah, c'est une coexistence entre deux mondes vraiment différents. Côté sombre qui cohabite étrangement avec la lumière, il y a quelque chose de pourri au royaume de Los Angeles, hein, complètement. Et c'est aussi un film hyper important parce qu'il a inspiré un grand nombre de films, et aussi je voulais en parler d'un jeu vidéo qui s'appelle L.A. Noir, ouais, que Benjamin a beaucoup apprécié, il me semble.
Même si c'est d'abord James Ellroy qui a inspiré L.A.
Noir. Oui, c'est James Ellroy, mais...
Il y a beaucoup de films noirs aussi.
Oui, mais après l'ambiance du jeu, on ressent l'ambiance du jeu est largement inspirée de celle du film,
oui,
quand même.
Je pense aussi.
Ça a énormément marqué, ne serait-ce que les musiques, qu'on va d'ailleurs vous faire écouter dans quelques instants, retracent vraiment bien l'ambiance très austère, très tendue des années 50. On va écouter ça tout de suite.
Thème principal de L.A. Noir, très jazzy, à la fois mélancolique, doux, triste, sombre.
C'est un peu doux-amer, un peu sauce ego douce hein, quand même. Hein.
Et nous allons passer à une chronique animée avec notre ami Ange.
Tout à fait, c'est bien moi.
Ce n'est absolument pas mon ami.
Tu es un non-finir.
Pas de gros mots, il y a
des
enfants
qui nous aiment.
Je n'ai qu'un nez.
Ah, oh, oh.
Oh, j'aime beaucoup. Donc parlons bien, parlons sport. Vous vous souvenez très certainement du fameux « Qui veut la peau » de Roger Rabbit, de un film de 1988 réalisé par Robert Zemeckis. Une magnifique perle dans le cinéma d'animation et live qui fait le plaisir des petits comme des grands. Oui. Eh bien, je ne vais pas en parler. Parce que tout le monde sait à quel point il est bon et qu'aux dernières nouvelles, Zemeckis refuse toujours qu'il y ait une suite.
Bah
tout non, comme pour Retour le futur.
Là, il en a parlé.
Ah, bah, j'ai revu un article à peine hier ou avant-hier.
Il est même pour recréer l'acteur numériquement.
J'avais vu qu'il était pas pour, justement. Moi, je sais pas, il change tout le temps d'avis, de toute façon. Mais bon, pour Retour vers le futur, c'est sûr, il est toujours pas d'accord. Et je ne lui en voudrais pas, hein, je vous le dis. Donc, c'est pour cette raison que je vais vous parler d'une autre perle de l'univers de l'animation, une comédie déjantée avec nos héros favoris, les Looney Tunes.
Une perle.
Une perle. Sacrée perle. Donc, le film Space Jam, sorti en 1996 par Warner Bros., la même production que Roger Rabbit, bien entendu. On ne change pas une équipe qui gagne.
C'est ceux qui possèdent les Looney Tunes, surtout.
Oui, surtout. Et avec, bien entendu, son altitude, comme il est si bien dit dans le film, Michael Jordan. Donc parlons un peu de l'histoire. Des martiens gérant un parc d'attractions veulent kidnapper les Looney Tunes pour en faire des esclaves dans leur parc, mais les Looney les défient dans un match de basketball pour gagner leur liberté. Tandis que les martiens volent les talents des meilleurs joueurs de basket, les Looney Tunes décident de kidnapper Michael Jordan afin qu'il les entraîne. Dans tous les cas, il y a un kidnapping et de l'esclavage, en gros. Mais qu'est Space Jam en réalité ? Un pur divertissement, il faut le dire. Hein. La Warner n'a pas lésiné sur les moyens pour refaire un film de la trempe de Roger Rabbit, pour divertir les petits et les grands, mais quand même en attirant un public beaucoup plus jeune qui adore se ruer sur les épisodes de Bunny et ses amis. Qui plus est, le basket étant la fierté des États-Unis, ils ont fait d'une pierre deux coups en rameutant un très grand nombre de fans. Donc ils comptabilisent un total de 1 915 390 entrées en France, ce qui est quand même pas mal, faut le dire, pour un budget de 80 millions de dollars.
Super cher.
Ce qui est énorme pour le film qu'il est. Donc en même temps, les différents caméos présents ont dû coûter cher. Hein. On y retrouve Bill Murray pour un rôle toujours drôle, mais vraiment minuscule, comparé à la taille de Jordan. Et d'ailleurs, il a dû se rajouter des...
Il s'est rajouté des scènes. Incohérentes, mais...
oui, on ne sait pas pourquoi. Il peut apparaître à un moment, on ne sait pas pourquoi, mais il se casse comme il est venu. Et il y a aussi les apparitions de 5 grands joueurs de la NBA, et je dis ça sans mauvais jeu de mots parce que l'un d'eux est minuscule par rapport aux autres. C'en est presque ridicule même, hein, il faut le dire, parce que c'est même ça, même au niveau du cadrage, de certains cadrages, il y a un joueur dedans, t'as l'impression que c'est un nain comparé aux autres.
Mais il est vraiment petit. Hein.
Mais oui, il est vraiment minuscule, mais là, c'est vraiment encore pire, en fait, parce qu'il paraît même plus petit que Bill Murray ou... je sais plus l'autre acteur.
Le chef cadreur n'était pas un génie.
C'était pas une flèche. Hein.
Tous ceux sur la production n'étaient pas des flèches.
Oui, donc voilà, c'est pour ça que je ne parlerai pas de la production.
Qui durait 4 ans.
Oui, tout à fait. Parce qu'on vogue dans ce film, dans l'humour décapant des Looney Tunes, c'est de l'univers live qui fonctionne quand même bien ensemble, même si c'est très mal géré. Enfin, pour certains endroits.
Le montage est charcuté.
Et oui, tout à fait. Et surtout, mettez-vous en tête que ce n'est pas du tout le même univers que Roger Rabbit. Et Space Jam vise quand même un public plus jeune. Mais si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille quand même. Hein, parce que ce n'est pas du tout le meilleur film du genre. Mais il n'en reste pas moins un très bon divertissement servi par la Warner. Accompagné par une bande-son tout de même géniale.
Ouais, et puis pour Noël, pour les gamins, moi je trouve
ça, tout à fait.
Ça pourrait être pire. Hein. Moi, ou alors revoyez les cartoons d'antan.
Oui, bah oui. Non, mais sincèrement, c'est de la même trempe en fait que les cartoons. C'est même un peu plus bas que les cartoons qu'on a.
C'est beaucoup plus bas.
À la télé, mais moi ça ne m'empêche pas de rire en fait devant
pense,
ce film
moi je quoi. Pense que enfin moi la première fois que j'ai vu ce film ça m'a fait exploser de rire, j'étais un enfant. Après, en grandissant, ça perd de son charme automatiquement. Oui,
c'est un peu comme Batman et Robin, tu vois.
C'est ça.
Tu vois les défauts.
Tu vois les défauts et tu vois que Michael Jordan, il est aussi bon en comédie qu'au baseball. Hein,
tout à fait.
C'est la même chose. C'est le même combat.
Ou au golf.
Et puis, visuellement, c'est charcuté, c'est mal foutu, on ne comprend pas grand-chose.
Oui, c'est pour ça que je vous demande de ne pas regarder cet aspect-là en fait, du film.
Vous le regardez. Oui, parce que là, tu es en train de détruire sa chronique. Hein,
non, mais justement, il a raison. Il faut vraiment le regarder.
C'est pas
passer un moment très léger.
Voilà,
c'est ça.
Pas se poser de questions. Surtout ne pas se poser de questions.
C'est un moment de bonne rigolade et puis voilà quoi, c'est juste ça ce film. Donc si quand même il vous a plu, je vous précise que la Warner a bel et bien confirmé qu'un deuxième se fera avec le basketteur LeBron James. Donc pour l'instant, il s'agirait d'une suite du film, mais bon, vu que ce sont les Looney Tunes, ils peuvent carrément réinventer une histoire. Totalement, je pense, et au moins ça sauvera peut-être le premier.
Ouais. Ça pourrait être possible. Ça pourrait être la rédemption du premier.
Oui, tout à fait. Donc, sur ce, je vous laisse, non pas avec le thème du film qui est I Believe I Can Fly de R. Kelly, mais avec une musique tout aussi appréciable qui se nomme Space Jam des Quad City DJs. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Gonna do, hey, do what you gonna do, hey, do what you gonna do, hey, do what you gonna do.
Et c'était donc la musique principale, le générique de Space Jam, générique de film affreusement long.
Et qui est non recommandé aux épileptiques.
Exactement. Et là, on va enchaîner avec Benjamin qui nous fait une petite préparation pour l'émission de la semaine prochaine, chers auditeurs.
Oui, je vous ai préparé la première partie de la wishlist des décadrés.
Oh.
Noël approche, les estomacs se préparent à être remplis de foie gras et autres mets. Le sapin est déjà entouré de cadeaux à son pied ou le sera bientôt. Pendant ce temps, les portefeuilles se vident, les cartes bancaires saignent et les banquiers pleurent ou alors se mettent en joie à l'idée de proposer un prêt bancaire avec un taux infernal. Chez les décadrés, rien de tout cela. On travaille, mais en même temps, on y pense beaucoup. On pense beaucoup à Noël. Je vous apportais donc des musiques histoire de poser, même forger une ambiance béton, Noël. Et maintenant que le cadre de Noël est posé, j'aimerais vous proposer une wishlist, c'est-à-dire la liste de cadeaux conseillés par les décadrés, des livres, des films, des séries.
Pour les décadrés aussi, ça fonctionne.
Voilà.
Si vous voulez nous adresser vos dons, n'hésitez pas.
Tant d'objets que vous pourrez vous procurer avant le 25 et même après d'ailleurs. Rassurez-vous, nous ne vous demandons pas l'aumône, mais il faut avouer que ça nous ferait plaisir si nous vous faites un petit cadeau.
Je viens de le faire.
Voilà. Mais rassurez-vous, nous n'espérons pas quoi que ce soit, on est juste un peu décadrés. Bref, c'est parti. Attention, la liste n'est pas exhaustive, il y en manque plein, j'ai plein d'idées, mais... Bon, voilà, j'ai pris comme je pouvais.
Ouais.
Et la chronique qui suit est la première partie sur deux de la wishlist. En série TV, on vous conseille un abonnement Netflix.
Fortement, fortement.
On est d'accord, les copains?
Oui, ben moi, je suis 100% d'accord. Oui.
Parce qu'il y a plus en plus de choses à y découvrir, à redécouvrir, et que cette offre légale est vraiment pas chère. On a moins de 10€ pour avoir Netflix en HD sur deux écrans simultanément.
Trois écrans,
TV, tablette, téléphone.
Et que même si ce n'est pas que pour les séries, vous avez des films comme Space Jam sur Netflix.
Exactement, et on peut télécharger les séries et les films pour les regarder hors ligne maintenant.
Exactement,
ce qui est formidable. Ensuite, je vous conseille Preacher, la saison 1, donc, qui a débarqué en DVD et Blu-ray. Donc, créé par Seth Rogen et Evan Goldberg, les cerveaux allumés à l'origine Green Hornet, donc le film de Gondry, The Interview, de Supergrave ou encore de Sausage Party. Si vous avez dit, je l'ai dit à l'américaine.
Bien, bravo.
Donc la série violente donc, est emplie d'humour et la noire est l'adaptation de la série de comics éponyme de Garth Ennis et Steve Dillon. Il est mort dernièrement d'ailleurs, je suis très triste. Elle suit Jesse Custer, un révérend en proie aux doutes et à de multiples interrogations. Donc après un événement surnaturel survenu à son église, celui-ci obtient certains pouvoirs. Il se lance alors à la recherche de Dieu et chemin faisant croise la route de Tulip, son ex-fiancée, et de Cassidy, un vampire irlandais. Un pèlerinage au cœur de l'Amérique où le bien et le mal ne font qu'un. Le coffret est sorti le 26 octobre 2016 et est proposé au prix de 20€ en format Blu-ray ou DVD d'ailleurs. Okay.
Et je crois que si je me trompe pas, l'acteur qui joue le vampire, ouais c'est ça, est super parce qu'il a joué aussi dans Misfits et il est parfait dans Misfits.
Je crois que c'est bien.
Et je crois que sa petite amie aussi, elle a joué dans Misfits et elle était géniale aussi.
Il a aussi joué dans Un bras de mie comme chasseur de vampire.
Ash vs Evil Dead saison 1 qui est débarqué en DVD et Blu-ray. Donc je vous avais chroniqué la série dans une de nos premières émissions, je crois que c'est la cinquième. Donc que vous pouvez retrouver sur Mixcloud et sur le site de PFM 99.9. Donc retrouvez donc Ash Williams dans une série géniale, hyper drôle, effrayante et excellemment réalisée et produite. Donc la série a été créée par Sam Raimi, le papa de toute la saga Evil Dead et de la trilogie Spider-Man. Donc entre autres œuvres géniales et portée par les vieux de la vieille de la licence qui sont Ivan Raimi, donc frère de Sam et scénariste qui a collaboré à nombre de ses films, et Roberta Pertre, producteur de la trilogie originale Evil Dead. La saison 1 est disponible en DVD et Blu-ray depuis le 16 décembre et est vendue à un prix de départ de 30€, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. De toute façon. Donc ensuite, et enfin, pour terminer cette première partie de la wishlist, les banlieusards, ça vous dit quelque chose?
Pas du tout.
Pas du tout.
Alors, si je vous parle d'un autre génial film de Joe Dante à qui l'on doit Gremlins 1 et 2, L'aventure intérieure, Hurlement, Panique sur Florida Beach, Les Looney Tunes passent à l'action ou encore Small Soldiers.
Eh ben, ça me dit toujours rien.
Eh ben, un film, donc Les Banlieusards, c'est un film de Joe Dante qui suit un banlieusard, Ray Peterson, interprété par Tom Hanks, qui est complètement cinglé dans ce film, qui devient peu à peu persuadé que ses nouveaux voisins étrangers, les Klopek, vraiment, sont de dangereux individus. À la suite de la disparition d'un des voisins, donc Ray s'allie à deux de ses voisins et concocte un plan d'infiltration de la propriété des Klopek lors de leur départ en voiture un après-midi. Donc le métrage de Joe Dante est un récit fou, percutant, brillant et subversif, comme seul Dante sait le faire. Et le film a été réédité par les excellentes éditions Carlotta Films avec deux produits sortis le 1er décembre. Le Blu-ray du film a un prix de lancement de 20€, mais trouvable à 17, et un coffret ultra correcteur contenant un Blu-ray, un livre de 200 pages, des DVD pour une tonne de bonus, dont la copie de travail de Joe Dante visible pour la première fois. Et le coffret, donc l'ultra collector, est vendu à un prix de 50, mais il est dispo à 40€.
Ok.
Donc voilà pour la première partie. Et bah, on va vous dire à la semaine prochaine.
Bah oui, à la semaine prochaine pour une émission spéciale.
Noël.
Oui. Joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. Parties for hosting, marshmallows for toasting, and carols.